Inlassable combattant, notre ami, notre compagnon de route, Alain Attlan, s'en est allé. Les nouvelles de sa santé ne nous laissaient plus grand espoir, mais ce départ n'en est pas moins difficile pour sa famille, ses amis, la communauté tout entière. Le Yetzer, la passion était chez lui une règle de vie, au point que ce proverbe juif « plus un homme est grand, plus grandes sont ses passions » semble avoir été taillé pour lui. Passion de la vie, passion de sa famille, passion de sa condition de juif, passion d'Israël et passion de sa communauté. Rendre hommage à sa vie de passion, de militantisme, mériterait l'écriture d'un ouvrage tout entier. Profession oblige, Alain est avant tout un homme de transmission. Vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir, disait Elie Wiesel. Alain a transmis d'abord à ceux qu'il a côtoyés et dirigés dans sa sphère d'établissement scolaire. Depuis son départ, nombreux sont ceux qui évoquent le surveillant général, parfois sévère, mais toujours juste et attentif. La passion pour l'autre l'amène à s'intéresser à la vie du Maccabi, du Matan Basseter et à la Chevra Kadisha, entre autres. Il est de ceux qui, au début des années 1980, s'est levé contre une direction du consistoire local qu'il jugeait trop partisane. Combat couronné de succès. Une de ses grandes passions de sa vie militante fut la création de Radio Communauté Centre-Ville, devenue par la suite Radio Kol Aviv. Il y a assuré tout à la fois et avec éclectisme l'information et la musique orientale. Des dizaines d'animateurs doivent leur vocation et leur engagement au soutien et aux encouragements d'Alain. En 2022, lors de la célébration des 40 ans de Kol Aviv, nous lui avions rendu hommage, cet hommage qu'il méritait, et il était devenu président de la radio. Comment ne pas citer également son action au CRIF, aux côtés de Nicole, puis de Franck, son élève de 6e, comme il aimait à le dire. La défense de la communauté d'Israël ne le quitte jamais. Capable qu'il est d'appeler France Info ou France Télévisions n'importe quelle heure pour souligner l'inexactitude des informations diffusées. Il est aussi le représentant local du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, n'hésitant pas à nous alerter sur chaque information ou agression. De plus, de façon plus discrète mais constante, il apporte son temps et son cœur à l'association Beit HaLochem qui lutte pour aider les invalides de Tsahal et leurs familles. Alain ne lâche rien. Ses combats de militants n'ont pas de limite. La seule limite, c'est le succès de ses idées. Ce dernier combat, il le mène avec férocité, mais hélas. À son épouse, à ses enfants Karine et Michael, ses petites filles et son petit-fils Milo, notre affection et nos remerciements de l'avoir accompagné et entouré jusqu'au bout. Au moment où ce texte paraîtra, se tiendra l'Assemblée générale de la CIT. C'était son assemblée, toujours préparée avec minutie et que redoutaient tous les responsables de la CIT. Tu ne pourras pas émerger la feuille de présence cette année, mais dans nos cœurs, tu es toujours là, toujours présent. Salut vieux frère, merci d'avoir accompagné nos vies. Où tu es, tu vas accompagner à nous écouter, à nous guider. On a encore besoin de tes conseils. Voilà, en plateau, on a la chance d'avoir Karine et Michael, les enfants d'Alain, qui sont présents avec nous, et Milo, son petit-fils. Alors, vous nous avez remercié tout à l'heure, Michael, d'avoir consacré, de consacrer cette émission à votre papa, mais j'allais dire que c'est la moindre des choses qu'on pouvait faire dans ces murs. Et avant ces murs, vous venez de me montrer une photo qui m'a ému. Si c'est encore possible, une photo où nous retrouvons, nous retrouvons tous, il y a plus de 40 ans, avec Jacques Higuetsch, Bernard Lamy, le rabbin Hick. C'était véritablement la radio, je crois, l'attachement de sa vie. Parce qu'il y a mis tout son cœur à l'endroit où nous sommes le dimanche. Il appelait, ou il envoyait des messages ici, pour nous dire non, c'est pas ça, là c'est bien, dis ça. Et même quand il pouvait plus encore se déplacer, il le faisait encore. Comment vous perceviez-vous cet engagement qu'il avait pour la radio ?
Bonjour. La radio, je crois que c'était un peu l'œuvre de sa vie, en fait. Il était au tout premier pas. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, il y a à peu près 40 ans.
Eh oui, tout juste.
À peu près 40 ans. C'était d'ailleurs le début des radios. C'était le début des radios libres. À ce moment-là, ça explosait un petit peu de partout avec les fréquences. Il a eu la chance au cours des rencontres, voilà, de pouvoir trouver cette fréquence, de pouvoir commencer à monter la radio avec vous, avec quelques amis autour de lui. Et voilà, l'aventure était partie. Et je crois qu'il n'y a pas une minute où il n'a pas pensé à la radio, où il ne s'est pas servi de la radio, où il n'a pas utilisé la radio aussi comme étant finalement un moyen de pousser les idées, de défendre la communauté, d'être vigilant à tout moment. C'était vraiment un élément central et jusqu'au bout. Je crois que 48 heures avant de décéder, il était encore en train d'écouter Radio Colavive.
Ah ben moi, il m'a envoyé un message quelques jours avant pour me parler d'un ami à nous qui avait disparu. Et puis, il était toujours dans ce combat. Alors ça me fait plaisir de vous avoir, Karine, et vous, parce que Alain parlait de ses enfants. J'ai suivi vos aventures au Mexique pendant très longtemps, parce qu'il nous le racontait. J'ai suivi la vie de Karine, ses difficultés, ses combats. Et il a eu la dent dure envers certains hommes politiques qui vous avaient un petit peu rudoyé. Et il me disait, quand j'invite un tel, non, je n'invite pas celui-là, c'est un salaud. Il lâchait rien, papa.
Non, c'est vrai, il lâchait rien du tout. Et il m'a beaucoup conseillé, il m'a beaucoup suivi dans mon parcours professionnel. Et effectivement, j'ai eu l'occasion au début de ma vie professionnelle de travailler pour un homme politique en tant qu'attaché parlementaire. Et il a eu beaucoup de colère envers lui. Et c'est drôle parce que mon père, il était, malgré le temps qui passait, sa colère restait intacte. C'est assez drôle parce que j'étais jeune, hein, j'avais 25 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 49, et on en aurait reparlé la semaine dernière, il aurait été toujours autant en colère. Donc ouais, il était très, très passionné, et voilà, donc il m'a appris beaucoup à me battre. Et concernant la radio, eh ben, moi j'ai eu l'occasion d'en faire, il y a très longtemps, j'avais 20 ans. À l'époque, j'en faisais, je me rappelle, j'ai été formée par David Arfi, David Seban, et je faisais les informations à l'époque, je m'en souviens très bien. Et je garde un très très bon souvenir de cette époque. Je me rappelle, j'étais à Sciences Po à l'époque et je partais à toute vitesse à midi pour rejoindre la radio, faire les informations et après retourner en cours. C'est de très très beaux souvenirs.
Alors, nombreux sont les responsables communautaires qui ont souhaité rendre hommage à Alain, et j'allais dire presque en tout premier lieu, Arié Bentsemoun, l'ancien président de notre communauté, a tenu à s'exprimer. Arié, bonjour.
Bonjour Gérald, bonjour.
Arié, je suis avec Karine et Michael, les enfants d'Alain, au studio. Oui. Je veux dire qu'Alain, vous l'avez connu, vous aussi. Je disais dans le papier qui va paraître demain dans Aviv Hebdo, que demain se tiendra l'Assemblée Générale de la CIT, que, entre autres, l'Assemblée Générale de la CIT, c'était son Assemblée, c'était son moment.
Ah oui, oui, oui. Écoutez, d'abord, je suis à la fois très ému et très heureux de pouvoir rendre hommage à mon ami Alain. Il faut l'appeler ainsi. C'est une personnalité que je connais, dont je connais la famille, les enfants que je salue, qui sont avec vous. J'ai très bien connu son papa, qui était un pilier de la synagogue et non des moindres. Et depuis que je suis tout petit, je vois Alain Atlan évoluer dans la responsabilité communautaire. Et vous avez raison de le dire, Gérald, l'Assemblée Générale, c'était son moment à lui, d'une certaine manière. Et c'était devenu une tradition et même un grand moment, finalement, d'amitié entre nous, parce qu'on savait qu'il ne mâchait pas ses mots, il était souvent critique, et vous savez que la critique, c'est ce qui permet de faire avancer toute situation. Il faut savoir écouter ceux qui ont quelque chose à dire et ceux qui peuvent ne pas être d'accord avec vous, et ce désaccord-là était, comme on le dit dans le Talmud, l'échem shamaïm, ce que Alain recherchait toujours, ce n'était pas la gloire, ce n'était pas les honneurs, ce n'était pas la volonté de briller, mais simplement de servir la collectivité, comme on dit, l'Echem Shamaïm, au nom du bien et au nom du mieux pour l'ensemble de la communauté. Alors, évidemment, comme pour toutes les belles personnalités de cette communauté que nous avons connues, avec qui nous avons grandi, que nous avons admiré, que nous avons respecté, que nous avons aimé, eh bien, nous savons que, malheureusement, il y a toujours un moment où ces êtres chers et précieux sont rappelés et doivent nous quitter. Alors, se souvenir d'eux, d'abord, c'est la première c'est le premier de nos devoirs, la première de nos responsabilités, et c'est un moment aussi pour essayer de faire ressortir ce qui, en chacun de ces personnages-là, de ces personnalités, ce qu'il y avait de plus exemplaire, de plus important, parce que c'est ça qu'il faut cultiver comme une graine qu'on a plantée et qui va continuer à fleurir. Et évidemment, je crois qu'il n'y aura plus d'Assemblée Générale qui seront les mêmes que celles que nous avons connues avec Alain pendant tant et tant d'années, des décennies. Il manque déjà évidemment à la communauté sa parole, sa liberté de ton, sa droiture, le respect qu'il avait pour tout le monde, y compris pour ceux avec lesquels il nourrissait des désaccords profonds. Et c'est possible, et ça existe, et c'est même vertueux. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Tellement de souvenirs. On a passé des heures et des heures de discussion, continué encore depuis que j'ai quitté Toulouse à échanger avec Alain. Il m'envoyait régulièrement des emails pour me demander mon avis, pour m'informer, pour savoir ce que je pouvais penser de telle ou telle situation qui, bien évidemment, concernait à chaque fois Israël ou le peuple juif. C'était un combattant et un militant farouche, déterminé. Et il sera pour aujourd'hui comme hier et pour demain dans nos cœurs. Et nous n'oublierons évidemment jamais. Je voudrais redire à la famille, à ses enfants, nos sincères condoléances, notre émotion, notre amitié. Son souvenir sera toujours pour nous tous à la fois une source d'inspiration et de bénédiction. Voilà ce que je peux dire. Si vous avez d'autres événements peut-être à rappeler, je suis heureux de les entendre et j'ai envie d'écouter tous ceux qui ont de belles choses à dire à propos de la vie et de l'action de notre ami Alain Atlan.
Voilà,
répondons les bras.
On le fera tout au long de cette matinée. Merci Arié, merci Gérald de ce témoignage. Et à très bientôt sur nos ondes.
À très très vite, Shavua Tov.
Voilà, ce premier témoignage, on rappelle, Michael, que les 8 jours, c'est ce soir,
c'est ça.
À 19h30 à l'EDJ.
C'est ça, ce soir à l'EDJ, 19h30, et lundi matin à Palapra, qui est un peu ça, la synagogue de son cœur.
Arié a bien fait de parler alors de votre grand-père également.
Tout à fait.
Que privilège de l'âge, j'ai eu la chance de connaître. Qui était un personnage haut en couleur.
Oui, déjà quelqu'un de très impliqué
dans
la communauté, tout à fait.
Il avait, pour les plus anciens d'entre nous, il y avait, vous en souvenez peut-être, Karine est peut-être trop jeune, mais il y avait à la synagogue de la VNS, à la rue du Rempart-Saint-Étienne, un petit Kajibi, et régnait en maître sur cette synagogue deux personnages, Monsieur Armand Hassoun, et votre grand-père. Alors, M. Armand Hassoun était quelqu'un de sérieux, d'un peu plus austère, mais votre grand-père, Lucien, était de temps en temps, et même assez souvent, un peu farceur.
Très farceur, je pense, au niveau de la communauté, et utilisant d'ailleurs, hein, je crois, son humour à l'époque pour supporter plusieurs institutions caritatives aussi au sein
de la communauté. Oui,
le matin basseterre, il était et je le vois régulièrement plaisanter avec les amis autour, mais toujours avec la finalité de
il y avait toujours encore une fois, c'était un plaisir d'aller à la synagogue, non seulement pour prier, ça me semble évident, mais parce qu'on savait que il y avait toujours un petit mot. Il était rieur, il était un monsieur très rieur. On va poursuivre ces hommages, on va peut-être, on a quelques personnes qui n'ont pas pu être là, mais qui ont souhaité, comme David Arfi, nous laisser un message. David Arfi était animateur, il était là quasiment à la création de la radio, et il a souhaité adresser un petit message.
Mon très cher Alain, aucun mot ne pourra exprimer aujourd'hui la peine que je ressens après cette terrible nouvelle. Je savais comment tu luttais depuis des mois et des mois. Mais je ne pensais pas que ce jour allait arriver. Je revois encore notre première rencontre. J'étais alors un enfant et tu étais l'ami de mon père, de mon papa Roger. Je te revois encore au magasin, à la maison. Vous jouiez aux cartes tous les deux. Et puis, j'ai grandi et je me souviens qu'un jour, à mon retour d'Israël, un jour de juillet 1987, tu m'as téléphoné et m'as demandé de venir remplacer à la radio David Seban. Tu as alors éveillé en moi cette passion pour la radio. Et j'ai pu partager avec toi pendant des années cette passion commune que nous avions tous les deux pour la radio et pour cette radio en particulier. Je suis très ému aujourd'hui en pensant en toi, en pensant à tous ces moments que nous avons vécus ensemble, rue du Rempart Saint-Étienne, dans les bons et dans les mauvais moments. Je sais que de là où tu es, Alain, tu continueras de nous écouter. Je t'embrasse très fort. Repose en paix, Alain. Repose en paix.
Voilà, David Arfi, dont Karine parlait avoir le souvenir. David Arfi qui était là avec nous au tout début de la création de Radio Colavive. Alain était toujours présent avec nous, même ces derniers temps, avec les difficultés qu'on connaît. Et Joël a capté un échange que nous avions eu lors d'une émission Shavuatov, un dimanche matin, il n'y a pas très longtemps. 10h47 sur Radio Colavive, quand l'actualité est à ce point-là chargée et délicate, nous aimons nous retourner vers ceux qui sont les voix et la conscience de cette radio. Et j'ai demandé à Alain Atlan de nous rejoindre. Alain, bonjour.
Et bonjour Gérald.
Bonjour.
Alain, on avait convenu avant Shabbat de vous faire intervenir pour parler de Salah Amouri. Mais on va peut-être parler d'autre chose. Alors rappelez-nous Alain, qui est Salah Amouri et pourquoi, j'allais dire malheureusement, nous sommes amenés à en parler.
Oui, mais Salah Amouri est un terroriste qui venait d'être libéré dans les échanges que procède Israël. Et c'est Salah Amouri qui est franco-israélien, mais on dit franco-palestinien, même si la Palestine n'existe pas, donne des conférences. Et le maire de Lyon, qui a l'outrecuidance de s'appeler Doucet, il faut le faire, hein, l'invite pour donner une conférence sur les accords d'Oslo pour le 1er février. Alors à ce titre-là, étant au CRIF, j'ai chargé de l'information et de la désinformation, j'ai, avec mon ami Franck Touboul, notre président du CRIF, demandé que l'on signe une pétition pour éviter que cette conférence n'ait lieu. Voilà. Et j'ai donc, comme je le fais d'habitude, téléphoné à la mairie de Lyon. Et j'ai eu, bien sûr, le standard qui m'a dit que la consigne donnée par le maire était surtout de ne pas répondre au standard depuis qu'il est élu. Par le standard, on vous dit il faut ou écrire ou envoyer un SMS. Quoi qu'il en soit, on ne va pas directement sur un service par téléphone. Donc j'ai insisté lourdement. Je leur ai dit, dites-moi, et si je dois déclarer une naissance, je vous envoie un timbre rouge ou un timbre vert pour vous annoncer cette naissance. Bref, la jeune femme, la vieille femme, je ne sais pas, n'a pas voulu répondre. J'ai retéléphoné l'autre fois en changeant ma voix, et toujours avec beaucoup de tact, hein, en me faisant passer pour quelqu'un qui avait besoin d'un conseil. « Lequel voulez-vous » me dit-elle. Je dis « Mais vous n'êtes pas le maire, vous n'êtes pas élu. » passez-moi un élu. Non, je ne peux pas, bref. On est tombé exactement dans les mêmes excès. Alors c'est Salah Hamouri qui adore se présenter comme étant...
Voilà, chronique d'actualité, puisque Salah Hamouri tenait meeting ce mardi à Toulouse et que le CRIF est intervenu. On va passer à notre message, Raymond Chmorak, qui est aussi un ancien de la maison.
Alain portait un nom qui ne lui allait pas du tout. En effet, Atlam veut dire en arabe « gâté », qui ne vaut rien, car il était d'évidence bourré de toutes les qualités qui faisaient de ce que l'on appelle aujourd'hui un homme. Que dirais-je de cet ami sincère et loyal? Je le voyais comme une sentinelle de la vie, un phare au-dessus des mers agitées, un lanceur d'alerte infatigable, avec son franc-parler qui en dérangeait plus d'un, car s'il n'y mettait jamais les formes, il avait toujours raison sur le fond. Il avait le sens de l'honneur, du devoir, le respect des choses et des gens, le sens des valeurs fondamentales, honnêteté, rigueur, lucidité, engagement, exigence. Bref, un ensemble de qualités bien rares de nos jours et qui nous permettent aujourd'hui de lui accorder un repos éternel pour les siècles des siècles. Salut, ami.
Voilà, la musique orientale était quelque chose qui, naturellement, origine oblige, était au centre de la vie d'Alain. On rappelle qu'il y a très longtemps, lors de la création de cette radio, il avait tenu une rubrique qui s'appelait « La Baraka » avec Léon Lalonde.
بسيط من واحد لغزال فليت ماشي مع فريق القيس بلا عقل وخلاني إذا بكيت وما شفيت
11h27, nous poursuivons cette émission hommage à notre ami Alain Attlan. On a au téléphone Franck Touboul. Franck, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Franck, nous sommes en studio avec Karine et Michael, les enfants d'Alain. Et alors j'allais dire, vous voulez certainement évoquer aussi celui qui était un peu le couteau suisse de notre communauté, c'est-à-dire qu'il était partie prenante à beaucoup de la vie de l'association, dont notamment le CRIF.
Écoutez, Alain, et c'est difficile d'en parler au passé, pour moi encore, d'abord c'était mon ami. Et j'étais fier d'avoir fait ce chemin pour arriver jusqu'à être son ami, parce que j'avais 11 ans, en 6e au lycée à Croix-Dorade, Georges Onet, et la première fois, je m'en souviens encore, j'étais convoqué dans son bureau. J'avais fait une connerie, sans doute. Et puis, une fois assis dans son bureau, où il me disait avec autorité de m'asseoir, je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. Et je voyais qu'il se forçait à être sévère. Je voyais qu'il prenait des airs de grandeur pour essayer de me terroriser. Et puis, très rapidement, vous savez, comme l'étaient les rapatriés d'Algérie, quand ils se croisaient entre eux, il y avait toujours une indulgence particulière, comme une sorte de complicité. Eh bien, il me la faisait sentir aussi. Et puis, au bout de 5 minutes, c'était mon fils. Et il me dit, je te surveille de près. Tiens-toi correctement. Et puis, immédiatement, la fraternité reprenait le dessus. Et notre judaïsme partagé était le point central de notre relation. Et donc, il exerçait sur moi une sorte de magistère moral et paternel dans cette école. Et ensuite, je l'ai observé. Puisque j'étais jeune, comme militant communautaire, comme poil à gratter de bien des réunions, et je m'amusais beaucoup de ça. Et inconsciemment, au départ, évidemment, parce que j'avais pas la maturité politique pour, inconsciemment, je me disais, elle vit cette communauté, il y a des débats, il y a des discussions, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis après, vous le savez, je me suis très rapidement engagé, puisque j'avais créé mon mouvement de jeunesse, il était heureux qu'il y ait un nouveau mouvement de jeunesse naisse à Toulouse, et puis au fil du temps, on s'est rapprochés. Et j'ai toujours été marqué par le fait que peu de gens savaient le prendre. Les gens allaient toujours frontalement avec lui au conflit, les gens qu'il dérangeait, hein, les gens qui étaient dans l'ordre établi et que lui contestait. Il avait une culture de gauche, il était d'ailleurs dirigeant et fondateur de Socialisme et Judaïsme à Toulouse, et donc il avait cette culture du débat, mais sans jamais rien entamer de ses attaches, de ses convictions, de son attachement à la communauté. Il n'a jamais claqué la porte en disant « je dégage de là et je reviens plus parce que vous m'emmerdez ». Pas du tout. Il était totalement enraciné dans sa communauté. Il surveillait de près la nomination des rabbins, il surveillait de près l'action et le travail des rabbins au quotidien. Comme il surveillait de près ensuite, et je réponds à votre question, chaque intervention médiatique qui concernait Israël. Il pouvait passer des heures au téléphone à attendre de parler aux journalistes qui avaient commis le mauvais article dans le mauvais journal disant des choses négatives ou fausses sur Israël ou sur les Juifs. Et il apportait sa contribution, il exigeait des corrections et il les obtenait la plupart du temps. Et à chaque fois, il s'attachait aux réunions du CRIF, à nous mobiliser en disant « téléphonez aux rédactions, téléphonez à Radio France, téléphonez à tel et tel journal, plaignez-vous de ça, plaignez-vous de ça ». C'était un acharné, mais un acharné avec une infinie tendresse. Vraiment, il était d'une... Enfin, bon, moi, vous savez, certains d'entre vous, et maintenant que je sais qu'il y a Karine et Michael, je suis un peu plus mesuré, parce que je ne veux pas ajouter de la peine à la peine. Mais je sais en tout cas, Karine, que je connais très bien, voilà, elle connaît ma relation avec Alain. Bon, c'est très difficile pour moi aujourd'hui de le voir partir. Il y a des choses que je ne peux pas dire forcément à la radio, mais les événements qui se sont déroulés dans la presse ces derniers jours contre la venue du terroriste palestinien reçu en héros à Toulouse, a mouru l'action que beaucoup de militants de la communauté ont menée l'ont été uniquement en hommage à sa personne, à son travail, à son militantisme, à son acharnement. Et j'ai aucun doute sur le fait que s'il avait été en capacité de le faire, il se serait joint à eux dans cette salle pour porter la contradiction et plus encore.
Franck, excusez-moi de vous interrompre. Avant votre intervention, on a passé un enregistrement d'Alain qui date d'il y a quelques semaines où il nous parlait de ce qu'il avait fait pour la venue de Salah Hamouri à Lyon.
Voilà. Oui, à Lyon, il s'est beaucoup battu. Mais même sur le BDS, il s'est battu. Mmh. Il faisait partie de ceux qui portaient le coup de poing carrément à Auchan contre ces militants qui appelaient au boycott des produits israéliens dans les supermarchés. Enfin, c'était un phénomène. Moi, je vous le dis, la seule chose que j'espère, c'est que cette communauté ne s'atonise pas, qu'il y ait encore des gens pour porter la contradiction, pour porter le débat, pour contester une partie des décisions que désormais des gens comme moi ou comme le futur président de la CIT prendront, que ce soit pas un long fleuve tranquille. Il faut des empêcheurs de tourner en rond, il faut des gens qui enrichissent le débat. Alain, c'était une crème. Et ceux qui ne le savaient pas le prendre, le percevaient comme quelqu'un d'hostile ou de revêche ou de retors. C'était tout sauf ça. C'était quelqu'un qui, une fois qu'on lui disait gentiment la chose en lui disant de l'accepter parce qu'on lui expliquait les raisons, mais il acceptait tout. C'était celui qui était probablement le plus docile de nous tous. Parce qu'en plus, quand il acceptait la chose, il l'acceptait avec vraiment sincérité. C'était pas une posture. Rien chez lui n'était une posture. Il était à fleur de peau en permanence. Donc, il ne pouvait pas être hypocrisie. Il n'était que sincérité, que sensibilité. Et c'est pour moi, enfin, c'est une perte immense parce qu'il était un repère dans mon engagement communautaire. Et j'adorais pouvoir discuter avec lui. J'aimais avoir son assentiment quand je faisais quelque chose. Et pour tout vous dire, c'est une des rares personnes vers laquelle je courais après le compliment. J'ai toujours dit aux gens de ne pas me faire de compliments parce que c'est toujours suspect quand les gens vous font des compliments. On a l'impression qu'ils veulent vous manipuler. Le seul chez qui je savais que le compliment était sincère, c'était Alain. Alors, après une réunion du CRIF ou autre, j'aimais bien lui parler le lendemain et avoir son sentiment. Je sais qu'il était fier de ce que je faisais, mais j'aimais l'entendre parce que c'était une caresse à l'oreille. C'était aussi une parole de tendresse qui, souvent, quand on se voyait, se joignait au geste. C'est un homme qui va nous manquer énormément.
Michael voulait dire quelque chose d'autre.
Non, merci Franck pour ces commentaires. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que dans tous ces combats, parce que finalement, le combat communautaire est une facette qui est connue par vous tous. Il y en a eu d'autres, nombreuses. Franck, tu évoquais le collège. Je suis aussi passé par le collège. Je suis aussi passé par son bureau, à vrai dire. J'étais à la même situation que toi, en étant son fils en plus, ce qui est assez curieux. C'est vrai que dans tous ces combats, je pense que ce qui a été l'élément qui fait qu'il pouvait se permettre d'être intransigeant, qu'il pouvait se permettre finalement d'être un petit peu l'empêcheur de tourner en rond, c'est qu'il n'a jamais cherché son intérêt propre. En fait, il s'est toujours battu pour les autres, finalement, et vraiment j'en suis témoin, et que ce soit au niveau syndical, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau santé publique avec d'autres engagements qu'il a pu avoir, il s'est toujours battu vraiment de manière totalement altruiste, en ne cherchant rien pour lui, en ne cherchant jamais à tirer de la lumière sur ce que lui pouvait faire.
Merci.
Mais c'est ce qui le rendait insaisissable, parce qu'en définitive, ses combats n'étaient jamais personnels. Ils étaient toujours pour les valeurs, ils étaient toujours pour ce qu'il croyait être juste. Donc jamais on pouvait lui opposer quelque chose du type intérêt particulier. Il était sans cesse tourné vers l'intérêt de la communauté, le rayonnement de la communauté. Mais souvenez-vous de la lutte contre les rabbins, contre la nomination de Raphaël Bannon, le grand rabbin de Toulouse, qui vendait la viande, Shoshana. On pourrait passer, parce qu'aujourd'hui, on a avec le recul beaucoup moins de stress avec ces sujets, mais on a le souvenir simplement des combats que presque seul, parfois, Alain a menés. Et puis cette radio, si nous parlons dans cette radio, si nous sommes à cette radio, c'est parce qu'Alain l'a fait vivre Alain, il était complètement addict à cette radio. Il en surveillait chacune des émissions. Il corrigeait les propos en mauvais français. Il intervenait si besoin était quand il avait abandonné. Il avait essayé de ne plus intervenir à l'antenne, mais il le faisait très régulièrement. Il surveillait chaque petit poulain qui venait à l'antenne. Et c'est d'ailleurs l'annonce que je voudrais faire avant de vous quitter. C'est que je souhaite et j'ai proposé au président de la CIT que le nom d'Alain Atlan soit donné au studio dans lequel vous êtes assis, au studio dans lequel Gérald tient l'antenne si régulièrement, que ce studio puisse porter le nom d'Alain Atlan. Je l'ai proposé à Yves Bounand et ce sera au prochain conseil d'administration de l'entériné. Je ne doute pas une minute que cette décision sera, cette proposition sera adoptée, tant elle est méritée. Et pour aussi longtemps que cette communauté durera à Toulouse, aussi longtemps que cette radio continuera de fonctionner, chaque personne qui rentrera dans ce studio se souviendra qu'ils sont dans le studio d'Alain Atlan. Et c'est pour nous la moindre des choses, parmi d'autres choses que nous ferons, que nous lui devons et que nous ferons.
Merci, merci Franck, merci de ce témoignage.
Et j'embrasse Karine très très fort.
Merci Franck.
Et je lui souhaite beaucoup de courage parce que il était toujours très très attentif à ce que tu faisais, y compris professionnellement, tu le sais, puisque souvent on a eu l'occasion de discuter, d'avancer ensemble pour ton parcours professionnel et évidemment pour ta santé. Donc je t'embrasse très très fort.
Moi
et
aussi.
Je vous souhaite à tous les deux, ainsi qu'à Maïté, beaucoup de courage. J'ai eu Maïté au téléphone il y a quelques jours. J'aurais toujours beaucoup de mal à se parler sans craquer, mais je vous embrasse à tous les trois très fort.
Merci Franck, Franck pour maman, c'est vrai aussi, c'est un moment difficile pour elle et j'en profite puisque tu évoques maman. Je crois qu'au niveau de pareil, tous les combats de papa ont été possibles grâce à une
personne. Exactement.
Voilà. Merci Franck. Voilà, on va enchaîner cet hommage avec une autre époque en recevant le docteur Georges Benayoun. Allô ? Voilà, le temps. On l'a, Georges ? Allô ?
Allô ?
Oui, Georges, bonjour.
Bonjour.
Docteur Georges Benayoun, nouveau président du KKL. Mais Georges, vous avez souhaité témoigner également, évoquer la mémoire d'Alain Atlan, mais ça va nous ramener à une période assez lointaine. Là, on parle du début des années 80.
Bon, on va remonter même plus avant. Alain Atlan, c'est l'amitié et la fidélité. Alain Atlan, je le connaissais depuis 1962, date à laquelle nous sommes rencontrés à notre retour d'Algérie. Et depuis, c'était la fidélité sans faille. Nous avons milité à l'UEJF, puis au sein de diverses associations comme la RICRA. Et puis, bien sûr, notre communauté. On avait créé avec Alain et Bernard Lamy la première radio communauté, et j'ai eu l'honneur de présenter le premier journal de cette radio. Nous avons été membres du conseil d'administration de la CIT, et avant de diriger avec Jacques Benzécry l'association consistoriale, tout ça donc 60 ans, c'est long. Je ne vais pas tout vous narrer, mais j'en aurai pour des heures. Simplement, c'est moi vous dire que Alain était un fidèle parmi les fidèles, un ami sur lequel on pouvait compter. Alain était un ardent défenseur de notre communauté, de toutes les valeurs qui nous unissent. Le combat contre l'antisémitisme, bien entendu, et l'antisionisme n'était pas un vain mot pour lui. C'était au quotidien qu'il s'y employait, et nous sommes nombreux à pouvoir en témoigner, comme ce matin. Alors permettez-moi, pour terminer, de saluer Maïté, son épouse, Karine, sa fille, et son fils, que j'ai moins connu, à Toulouse, en leur renouvelant mes condoléances les plus attristées. Voilà.
Merci Georges pour ce témoignage. Et encore une fois, nous sommes avec Karine et Mickaël. L'engagement d'Alain était total, était tel, était multiple. J'ai encore une fois, je l'ai précisé dans le petit papier qui sortira demain dans Aviv Hebdo, son action au sein de Beth Alochem. C'est une association qui vient en soutien des handicapés de la guerre des guerres d'Israël. Malheureusement, il y en a eu plusieurs. Et j'ai le souvenir d'avoir été avec lui. Il y a une équipe de handisport basket qui était venue d'Israël, qui était venue à Toulouse. Et il était encore une fois d'une chaleur dans ses encouragements parce que c'était l'équipe d'Israël, c'était une équipe d'handicapés et l'idée, encore une fois, d'accompagner ces jeunes était quelque chose d'important pour lui. Salomon Atea nous a rejoint. Salomon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
On coupe, oui. On coupe avec Georges. Oui, Salomon. Alors, Salomon, j'allais dire compagnon des derniers instants aussi d'Alain, qu'il a beaucoup côtoyé au CRIF, à la radio et dans d'autres associations. On vous sait et on vous a vu ému comme nous tous, ému peut-être encore plus que nous tous, parce que Alain était important dans vos émissions du dimanche. Il en était parfois l'instigateur. Très souvent le correcteur est toujours la critique comme à nous. Il l'appelait pour nous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, là tu aurais dû faire ci ou ça.
Oui, ben Alain, j'ai énormément de souvenirs avec lui. Effectivement, dans l'émission que j'anime le dimanche avec Roger Attali, alors c'est pas lui qui m'appelait à la fin de l'émission, c'est moi qui l'appelais pour savoir ce qu'il en avait pensé. Et alors au début des émissions, il y avait beaucoup de critiques et puis au fur et à mesure... ça allait. Puis avec Alain, c'est une grande histoire d'amitié, de fraternité, de loyauté. Et si Franck le disait tout à l'heure, il ne connaissait pas l'hypocrisie. Il avait, s'il y avait un des qualificatifs, c'est sa loyauté. Et donc, bien sûr, je pense aussi à Maïté, à Karine, à Mickaël. Et puis, je vois Milo sur le plateau et je sais que les dimanches où des fois je l'appelais, il me dit « Attends, non, pas maintenant, je vais voir mon petit-fils ». Et je sais la joie qu'il avait quand il voyait Milo, et j'imagine que Milo découvre aujourd'hui un petit peu à travers ses témoignages. Il le connaissait déjà en tant que grand-père, mais j'imagine qu'aujourd'hui aussi tu le découvres avec ses passions, avec justement son acharnement pour la vérité, pour le combat communautaire. Et voilà, c'est la transmission, Alain aussi. Il nous a transmis beaucoup de choses. Tout à l'heure, Gérald, vous parliez de handisport. C'est vrai, je me rappelle maintenant, j'avais oublié, mais c'est vrai que je me rappelle aussi des matchs de basket, ball en handicap où il y avait des joueurs israéliens qui venaient. On s'était retrouvés dans ce grand stade. Et c'est vrai qu'il avait une passion à chaque fois, même pour les loger. Il était content de passer des moments avec ces gens-là. Puis c'était un combat. Et Michael disait, c'est plusieurs facettes. Nous, on le connaît évidemment sur le combat communautaire. Mais pas que. Il me parlait souvent de ses combats, justement, de syndicalistes dans les instances pédagogiques, etc. Et voilà, c'est quelqu'un qui croyait en ce qu'il voulait. Il avait ses valeurs et il aimait aussi les animaux. Il me parlait souvent des animaux. Voilà. Donc Alain, c'est tout ça à la fois. Et comme le disait Franck, et c'est vrai, Alain, des fois, on le voyait comme ça. On disait, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis quand on le connaissait et qu'il ouvrait sa carapace, c'était vraiment une crème et c'était une infinie tendresse d'être avec lui. Et effectivement, j'ai passé d'énormes moments avec lui. On a souvent discuté. Des fois, je l'appelais pas pendant 5-6 jours. Il me disait, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je lui ai rappelé qu'il fallait qu'on se rappelle. Et voilà. Donc, c'était, puis, une grande passion. On s'appelait, on était plus que des amis. Hein. On était vraiment une famille parce qu'on s'appelait souvent et on se le disait. Voilà. Et j'embrasse vraiment Maïté. Je sais, Mickaël, tu lui as rendu hommage. Et Maïté, sans Maïté, ben, c'est vrai qu'Alain n'aurait pas pu mener tous ces combats, et donc j'ai une énorme pensée à elle, et je me souviens aussi, je termine, pardon, des moments où vous venez le voir, et Maïté qui nous sert le café, qui est là. Et dernière chose, quand je suis allé le voir la dernière fois, il était heureux de nous montrer, à chaque fois qu'on y allait, nous montrer, il a des documents, je pense qu'il doit avoir des archives énormes de la communauté, et donc il nous montrait sa photo de la radio, j'ai une photo avec Enrico Macias, voilà, bon, je pourrais en parler pendant encore 10 minutes, voilà, donc... Voilà, en tout cas, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous manquer.
Mais on demandera à la famille leur accord pour nous prêter ces photos. Bien sûr. Sais que dans le local de la rue 28 rue Saint-Rome, où a commencé Radio Colavive, il a les photos d'Enrico Macias, qui était le parrain de cette radio. C'est il ça. Prenait en photo, mais pour montrer encore une fois à quel point il s'intéressait à tout. Moi, professionnellement, il m'a souvent appelé parce qu'il était aussi souvent en conflit avec le syndicat de copropriété.
Oui, exact. Exact,
c'est un autre Alors, combat. Il m'appelait
c'est parce un autre
que,
combat, mais c'est
voilà,
un combat.
Il m'appelait souvent en me disant « Rends compte, il m'a dit ça, rends compte, ils n'ont pas voulu faire ça. » Et il y mettait, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ce bonhomme, que ce soit la défense d'Israël, de son syndicat de copropriété, et puis encore une fois, pour nous qui avons jouer au foot au Maccabi, voir Alain Attlan sur le bord de la touche, en train de, excusez-moi du terme, d'engueuler les uns et les autres et de râler, c'était quelque chose d'extraordinaire. Tu devais pas le connaître comme ça, ton grand-père, mais c'était quelqu'un qui était sur le bord de la touche, qui encourageait le Maccabi. Il était, comme nous tous, d'une mauvaise foi évidente, mais il fallait pas toucher. C'était une époque où, quand on jouait au Maccabi, on se faisait souvent traiter de sale juif, mais il supportait pas ça. Voilà, on va faire une pause musicale et on continue avec cet hommage.
Toutes ces années d'indépendance, je n'ai pas pu les voir grandir, parce que j'avais pris mes distances avec ceux qui me faisaient souffrir. Moi qui vivais de son odeur, j'ai tant souffert dans mon exil. Mais j'ai l'amour encore au cœur, malgré des heures bien difficiles. Mais aujourd'hui on a vieilli, toi là-bas en Algérie, et moi j'ai fait ma vie ici. On est resté des amis, on est resté des amis. عشنا مع بعض في دار وحدة لكن مكتوب فارقنا واليوم الله يجمعنا هيا نديروا السلام ونسيروا إلا الأمام ربي هو لي سيرنا تصفى القلوب تنحل غبنا Sache qu'on a eu des frères aussi, un temps où l'on s'aimait vraiment, mais on ne s'est pas toujours compris. Mais aujourd'hui on a vieilli, toi là-bas en Algérie, et moi j'ai fait ma vie ici. On est resté des amis, on est resté des amis.
Voilà, il y a les personnalités communautaires qui ont souhaité se joindre à nous, mais il y a aussi les amis d'Alain, et on a le plaisir de recevoir Jean-Léo Lévy. Jean-Léo, bonjour.
Bonjour.
Alors, Jean-Léo, il faut que vous vous présentiez, que vous nous disiez, et que vous nous disiez quel est le lien que vous aviez avec Alain Attlan.
Voilà, quelle tristesse d'avoir appris le décès d'Alain. C'était un ami que j'ai connu il y a exactement 73 ans au cours d'un camp et un camp scouté. C'était un homme exceptionnel, distingué, à l'écoute des autres. Malgré ses souffrances, il ne se peignait jamais. J'en garderai un souvenir inoubliable. J'adresse mes condoléances attristées et émues à son épouse, ses enfants et à tous les amis toulousains affectés par sa disparition. Voilà.
Alors Jean-Léo, parlez-nous un petit peu, vous nous parlez d'il y a 73 ans, donc vous aviez l'un et l'autre une douzaine d'années.
Voilà, exactement.
Alors bon, c'est une époque, par définition, ses enfants et nous-mêmes ne l'avons pas connu. Comment était Alain déjà à cette époque-là?
Ah, c'était un homme déjà extraordinaire. D'ailleurs, moi, j'habite Marseille, malgré la distance avec Toulouse. On s'appelait très souvent, on se racontait des histoires, on se souvenait de tout ce qu'on avait fait dans notre jeunesse. C'était vraiment un être exceptionnel que je n'oublierai jamais.
Merci, merci Jean-Léo, ça nous fait plaisir et je pense que son fils Michael et Karine, sa fille, sont là.
En parlant de son enfance, en fait, je voudrais évoquer une anecdote, je pense, qui est probablement à l'origine de tous ces combats. Il nous a raconté plusieurs fois, et Karine, tu t'en rappelleras aussi, je pense, quand enfant, il s'était fait sortir de sa classe, tiré par l'oreille, parce qu'il était juif. Et je crois que ça a démarré là, en fait. Voilà, c'est là que c'est la première histoire. Et souvent, il nous a dit que tous ces combats, en fait, il les menait pour que Milo, pour que mes filles, Elsa, Johanna, Julie, alors qu'ils sont elles sont pas là aujourd'hui avec nous parce qu'elles sont aux trois coins du monde, elles sont trois, mais chacune quasiment sur un continent, mais je sais qu'elles nous écoutent, ou du moins pour celles qui sont en Amérique latine, Elsa nous écoutera en podcast. En fait, il a mené ces combats-là pour que ses petits-enfants n'aient plus jamais à souffrir ce type de choses. Voilà, je crois que c'est vraiment le point, ça a été le point de départ.
Merci Jean-Léo, merci de ce témoignage depuis Marseille. Merci et portez-vous bien.
Merci, au revoir, merci.
Voilà, on va poursuivre cet hommage. On va avoir Éric Lebar tout à l'heure, non ? On va avoir Yves Bounan. Donc, on parle, donc, vous savez, en radio parfois, où on envoie de la musique. Voilà, on va envoyer une musique, le temps d'appeler Yves Bounan, le président de la communauté, et on aura l'occasion d'avoir d'autres témoignages jusqu'à 12h30.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages. Tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras, tu pourras repartir au fin fond des nuages.
Voilà, nous poursuivons cette émission hommage à notre ami Alain Atlan. Nous avons au téléphone Yves Bounan, le président du consistoire. Yves, bonjour.
Oui, bonjour Gérald.
Alors, nous rendons depuis ce matin, depuis 11h, cet hommage à Alain Atlan. Nous sommes avec Karine et Michael, ses enfants en studio. Et je crois tout naturellement que vous souhaitez vous joindre à cet hommage.
Absolument Gérald, je n'étais pas sur Toulouse ce matin, je viens à peine d'arriver. Et je voulais absolument participer à cet hommage. Avant toute chose, bien entendu, je donne rendez-vous ce soir à 19h30 à tous les amis d'Alain, tous ceux qui voudront lui rendre hommage à l'espace du judaïsme, où avec le rabbin, nous ferons à nouveau une célébration, bien sûr, par rapport à cette disparition. Moi, je voulais vous dire à quel point j'étais touché par la disparition d'Alain, parce que c'est quelqu'un qui m'avait profondément touché dans mon cœur, parce que, en fin de compte, il y a deux Alain Atlan. Il y a celui que l'on a connu il y a une trentaine d'années. Moi, je démarrais dans la communauté et je voyais avec quelle force il se battait, il se forçait l'idée lors des conseils d'administration, lors des assemblées générales de la CIT notamment, où il se faisait remarquer justement par ses prises de parole, ses coups de gueule. Et je ne comprenais pas très bien tout ça à l'époque, parce que j'étais jeune militant, et je trouvais même que c'était exagéré, parce que j'avais tendance à me ranger du côté de ceux qui, entre guillemets, peut-être savaient, mais je sais qu'il avait au fond de lui cette volonté de justice, il avait horreur de l'injustice, et il se battait pour le bien de tous, pour le bien d'Israël, pour le bien de ses co-religionnaires, pour le bien de sa communauté. Et puis je disais qu'il y avait un deuxième Alain Atlan, c'est celui que l'on a eu l'occasion de voir sur ces 10-15 dernières années, un Alain Atlan beaucoup plus apaisé, qui certes disait tout ce qu'il avait à dire, j'ai eu énormément de discussions avec lui, mais on a eu des échanges tellement, tellement délicieux ensemble. Il me disait tellement de choses gentil à mon encontre. Il était tellement, tellement touché de la façon dont je gérais cette communauté qu'il m'en, émeuvait. J'en étais moi-même très ému et très touché. Ça me, donc c'est cet Anna Atlan aussi dont je voulais
Muriel,
parler.
Tu l'appelles après.
C'est cet Anna Atlan qui m'a touché profondément. Et c'est cet Anna Atlan qui va énormément me manquer, nous manquer à nous tous.
Non, je demandais à Karine.
Je suis toujours en antenne, parce que je vous entends, Gérald.
Oui, non, voilà, on a un petit loupé. Oui, vous avez bien précisé, encore une fois, l'importance de son rôle, ce côté qu'on pouvait, dans un premier temps, considérer comme très intrusif, mais on essaie, et les témoignages qu'on a depuis ce matin, d'Arié, de Franck, de David Arfi, montrent... Un Alain Atlan intéressé par, encore une fois, toutes les structures communautaires, que ce soit le choix du rabbin, que ce soit l'entretien du cimetière, que ce soit la radio, que ce soit le plan politique. Je veux dire, il était intéressé au sens premier du terme par tous ces thèmes-là.
C'est ça, il était profondément intéressé par tout ce qui touchait, qui avait attrait à notre communauté, effectivement, Gérald, que ce soit la radio, que ce soit le social, que ce soit le religieux, que ce soit l'entretien des cimetières, qui lui tenait particulièrement à cœur. Tous les sujets le touchaient, l'émeuvaient, et il fallait que sur tous ces sujets-là, il puisse s'exprimer de sa manière. Et moi, j'ai appris justement à le connaître, j'ai appris à voir qui c'était, et j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris à ses côtés sur ces dernières années. Et encore une fois, il m'a soutenu, m'a tout soutenu de toutes ses forces, et je vous assure que d'avoir le soutien d'Alain Atlan, c'est quelque chose d'important, parce que je l'ai tellement vu se battre contre les autres présidents qui m'ont précédé, que vraiment, moi, j'en étais très touché. Et puis, il y a aussi une qualité qu'il avait, c'est qu'il pouvait se mettre en colère, notamment d'une assemblée générale de la CIT, mais pour autant, il respectait toujours l'homme. Une fois que c'était terminé, qu'il avait fini de dire ce qu'il voulait, eh ben, il repartait dans des discussions, dans un grand shalom avec les personnes avec qui il avait eu l'occasion justement de se friter. Et ça, c'était une grande qualité qu'il avait, Alain. Il
voilà.
Disait les choses à sa manière, mais après, ça passait.
Voilà, vous lui rendrez avec le rabbin de Toulouse un hommage ce soir pour les 8 jours, et on aura l'occasion, Franck en a parlé, du souhait qu'il a émis, qu'il a suggéré, que ce studio porte le nom d'Alain Atlan, ce à quoi nous ne pouvons que souscrire. Et je pense que le conseil d'administration de la CIT ne fera aucune difficulté à accéder à cette demande.
Non, j'en ai discuté avec Franck justement la semaine dernière, c'est amplement mérité, mais on aura l'occasion lors du prochain conseil d'administration de la CIT de valider justement cet état de fait. Et puis, je me souviens aussi, Gérald, que vous m'aviez proposé de le rendre président d'honneur de cette radio. Ça l'avait énormément touché. Je suis content qu'on l'ait fait de son vivant.
Merci.
Merci pour cette belle émission, Gérald. Merci à vous tous. Merci. Très bonne journée à vous.
Voilà. Une pause musicale et on poursuit cet hommage.
Il peut vous raconter l'histoire de 3 générations, et pourtant ce n'est jamais qu'un violon. Il berce les enfants, il marie les plus grands, c'est l'ami de toute la maison. Son corps est fait du bois, de l'arbre, de la vérité. Ses cordes ont une voix que l'on ne peut pas imiter. C'est un livre.